Bonjour et bienvenue à Pour un Québec apprenant en ce mercredi 9 janvier 2013. Ici Anne-Marie Kerouac qui vous retrouve comme tous les deuxièmes mercredis du mois pour cette émission produite par CIBL en collaboration avec l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, l'ICEA. Je vous rappelle que cette série d'émissions s'inscrit dans le cadre de la démarche que l'ICEA a entreprise pour la tenue d'un grand événement qui va avoir lieu au printemps, soit le rendez-vous pour un Québec apprenant. On souligne également le 10e anniversaire de la mise en place de la politique gouvernementale en éducation des adultes et en formation continue. Alors, le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est acquis, compétences et reconnaissance. Un thème très vaste qui s'applique autant au marché du travail qu'aux établissements scolaires. On va donc plonger dans ces deux univers avec tout d'abord, dans une quinzaine de minutes, la reconnaissance des acquis et des compétences dans le milieu scolaire avec Mme Magali Robitaille, conseillère pédagogique au Cégep Marie-Victorin dans le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences, et Mme Sylvie Prescott, coordonnatrice du CERACIM, le service d'évaluation et de reconnaissance, oui, des acquis et des compétences de l'île de Montréal. Pour le monde du travail, je recevrai en début de deuxième demi-heure M. Claude Bégin, qui est conseiller syndical à la Confédération des syndicats nationaux, la CSN, au module des relations de travail, et avec lui M. Christian Gendron, directeur général par intérim du comité sectoriel de main-d'œuvre communication graphique. En fin d'émission, on va parler des grandes tendances internationales dans la reconnaissance des acquis et des compétences et aussi des pistes d'action collective qu'on devra adopter au Québec au cours des prochaines années. Ce sera ce segment en compagnie de Monsieur Guy Fortier, qui est le directeur général de Compétences Montréal. Mais avant toute chose, pour bien comprendre cette thématique de la reconnaissance des acquis et des compétences, il faut remonter un peu dans le temps et découvrir comment est née cette notion. Dans quelques instants, donc, je vous propose un entretien avec Mme Rachel Bélisle, qui est professeure agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, également membre du Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le centre qu'on appelle le CERTA. Alors, c'est parti pour un Québec apprenant. Alors, avant d'explorer les différents volets de la reconnaissance des acquis et des compétences dans les milieux de travail et aussi les milieux scolaires, on va commencer par expliquer cette notion quand même assez complexe et remonter aussi un peu dans le temps. Alors, je vous propose une entrevue avec l'une des grandes spécialistes de la reconnaissance des acquis et des compétences au Québec, Mme Rachel Bélisle, qui est professeure agrégée à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, également membre du Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le CERTA. Mme Bélisle a également dirigé en 1995 la création de l'outil Nos compétences fortes, qui était dédié à la reconnaissance des compétences génériques. Je me suis entretenue un peu plus tôt avec Mme Rachel Bélisle et je lui ai d'abord demandé la simple question, qu'est-ce qu'on entend par la notion de reconnaissance des acquis et des compétences?
Il y a plusieurs définitions qui peuvent être données, mais on pourrait dire de façon simple, puis qui englobe plusieurs des pratiques, c'est que c'est un processus qui est mis en place par des organismes de formation ou des organismes du monde du travail pour voir si des apprentissages qui ont été faits dans un contexte différent de celui qui est le plus courant, comme par exemple suivre un cours, si ces apprentissages-là correspondent à ce qui est attendu pour accorder un diplôme, un certificat de qualification, une attestation, un permis, une rémunération ou autre. Donc, c'est assez large ce qui est couvert par le terme reconnaissance des acquis et des compétences.
Et depuis combien de temps au Québec est-ce que ça existe, cette terminologie de reconnaissance des acquis et des compétences?
La terminologie elle-même, on l'associe à 2002 quand la politique gouvernementale d'éducation des adultes et de formation continue a été adoptée. Mais les acteurs en parlaient déjà un peu avant. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il se faisait de la reconnaissance des acquis dans les organismes d'éducation, les universités, les centres de formation des adultes, les centres de formation professionnelle. Il s'en faisait bien avant 2002. Les collèges ont été, il y a certains collèges qui ont fait vraiment du développement très intéressant dans les années 80-90, mais on peut dire que enfin, moi, c'est comme ça, j'en parle. Il y a eu un premier cycle de développement dans les années 80. Il y a eu un rapport vraiment important qui est le rapport Jean, qui avait tout un chapitre sur la reconnaissance des acquis. Et il y a eu vraiment, à la fois dans le monde du travail, avec la commission de formation professionnelle, du développement en reconnaissance des compétences, du développement en reconnaissance des acquis. Mais quand on a fait le bilan à la fin des années 90, tout le monde était d'accord pour dire qu'on avançait à pas de tortue, que on voyait les gens, c'était difficile de savoir ce qui était possible et tout ça. Il y avait beaucoup de, à raison d'ailleurs, de désaccords avec la façon dont ça se faisait pour les adultes immigrants. Les personnes immigrantes qualifiées qui arrivaient en grand nombre à cette époque-là. Donc, il y avait des ratés importantes. Donc, la politique de 2002 donne un coup de barre et tente de réaligner les choses pour qu'on soit plus efficace.
Et quelle est l'importance? On reconnaît que oui, c'est important de reconnaître les acquis et compétences de chaque employé au Québec, mais qu'est-ce qui sous-tend tout ce désir d'uniformiser la reconnaissance?
En fait, ce qui va jouer un rôle vraiment important dans la politique de 2002, c'est que c'est tout un mouvement international en faveur de l'apprentissage tout au long de la vie. Ça commence à la fin des années 90 où on voit vraiment plusieurs nouveaux phénomènes ou des phénomènes qui étaient déjà en place depuis un certain nombre d'années qui s'intensifient, la mondialisation, le développement des nouvelles technologies, etc. Et là, on va développer ce... En fait, il existe déjà depuis plusieurs années, mais il va prendre une couleur particulière, le concept d'apprentissage tout au long de la vie. Pour que les adultes se mettent vraiment dans ce mouvement d'apprentissage tout au long de la vie, il faut qu'on ait des moments où on va leur reconnaître ce qu'ils ont appris pour les encourager et tout ça. Donc, c'est un peu ça qui a joué dans la politique de 2002. Mais au plan politique, ce qui est intéressant, enfin, de se rappeler, c'est qu'en 2002, on était sous un gouvernement du Parti québécois, donc une politique du Parti québécois. En 2003, on passe avec un gouvernement du Parti libéral. Le Parti libéral va maintenir la politique, il va maintenir le plan d'action qui en découle, mais il va lui donner une couleur particulière. Donc, dans les dernières années, le focus qui a été mis, ça a été surtout sur des mesures qui visent l'emploi, qui visent les travailleurs et les travailleuses, la formation professionnelle et technique, la reconnaissance des compétences via les comités sectoriels et la reconnaissance pour les personnes immigrantes qualifiées. Mais il y a d'autres mesures qui ne s'adressent pas spécifiquement aux travailleurs, en formation générale des adultes, par exemple, qui peuvent être gagnantes aussi comme citoyens et citoyennes, qui restent un peu dans l'ombre, je dirais, dans cette période de développement-là.
Et c'est assez récent quand même parce que vous parliez, bon, c'est le rapport le 2002, donc à peine une dizaine d'années. Vous avez évoqué les comités sectoriels de main-d'œuvre, donc on peut parler de reconnaissance dans les entreprises, dans les milieux de travail. Il y a aussi cette reconnaissance dans les milieux d'enseignement aussi.
Oui, tout à fait. Donc, on va les retrouver à tous les ordres d'enseignement, au secondaire, sauf au primaire, puisqu'on parle des adultes. Au secondaire, on va en trouver en formation professionnelle. Ça, c'est bien développé. Bon, bien sûr, il reste encore beaucoup de travail à faire, mais on a des bonnes bases. Par exemple, nous, on a fait une étude auprès de gens qui ont bénéficié de cette reconnaissance-là. Les gens sont en général très satisfaits et ça leur donne un élan dans l'apprentissage qu'ils vont maintenir aussi une fois qu'ils ont terminé, et bien sûr au plan professionnel. Donc, au niveau de la reconnaissance au secondaire, en formation professionnelle, les bases sont solides, il reste beaucoup de travail à faire, mais les gens qui nous écoutent peuvent vraiment, si ça les intéresse, ils peuvent prendre le téléphone, poser des questions, il y a des choses. En formation générale, donc les gens qui visent plutôt avoir un diplôme d'études secondaires, le DES, là, c'est plus modeste, je dirais. Mais là aussi, il y a des choses qui existent. Il y a des auditeurs qui ont peut-être déjà fait le TEMS, qui est un test d'équivalence de niveau de secondaire. Ça fait partie de la reconnaissance des acquis, ça. De mon point de vue, il y a encore beaucoup de choses qui devraient être faites en formation générale des adultes, notamment pour les adultes qui sont plus éloignés du secondaire 5 où, pour le moment, il n'y a rien de disponible pour eux. Dans les collèges, ça existe aussi. On a un bon développement en formation technique. En formation générale, c'est également disponible. Il faut s'adresser à son collège, la région de Montréal. Je pense que vous avez un de vos invités qui va expliquer un peu comment ça fonctionne.
Oui, bien, le deuxième segment de l'émission sera donc consacré à la reconnaissance dans le milieu des commissions scolaires de Montréal et aussi des collèges.
Oui. Au niveau des universités, c'est beaucoup plus modeste, je dirais. Il n'y a pas eu de soutien financier particulier depuis qu'on parle de reconnaissance des acquis et des compétences. Donc, par exemple, à l'Université de Sherbrooke, on a une politique de reconnaissance des acquis. Depuis quelques années, on a une professionnelle qui travaille sur ce dossier-là en particulier, mais je dois dire que je suis pas très optimiste sur le développement dans les prochaines années, compte tenu de l'invisibilité, on pourrait dire, dans le débat public actuel de la présence d'un nombre extrêmement important d'adultes en milieu universitaire. Donc, sur ce côté-là, ça se fait. Faut pas hésiter à poser de questions, mais c'est beaucoup moins rodé qu'en formation professionnelle et technique, par exemple.
Donc, ça serait les deux domaines les plus forts en ce moment. On aurait à travailler plus au niveau universitaire pour les prochaines années.
Il faut pas abandonner ce qui est commencé aussi en formation professionnelle et technique parce que il reste encore beaucoup de travail à faire. De mon point de vue, il faut vraiment porter tout cela de front, à la fois dans le système éducatif, dans tous les ordres d'enseignement, aussi bien sûr dans le système professionnel, concernant l'accès aux ordres professionnels. Il y a eu des avancées importantes qui se sont faites, mais il reste aussi beaucoup de défis. L'organisation de la formation manquante reste importante. Parce qu'il est important aussi de comprendre en reconnaissance des acquis et des compétences, c'est quand l'adulte se présente à l'organisme responsable, à partir d'un certain nombre d'étapes, on peut lui reconnaître des compétences, mais c'est très rare qu'il va obtenir tout son diplôme via la reconnaissance des acquis des compétences. Donc, pour avoir ce diplôme-là, si c'est ce qu'il veut, parce qu'il pourrait ne pas se rendre là, mais s'il veut avoir le diplôme, il devra faire ce qu'on appelle de la formation manquante ou de la formation d'appoint. Et cette formation-là, elle est très complexe à organiser parce que chaque adulte demande des cours différents puisqu'il a une expérience et des apprentissages différents.
Donc, on parle de formation personnalisée.
Exactement. Exactement. Même moi, dans les travaux qu'on a fait ici en Estrie, là, avec les commissions scolaires estriennes, on a l'impression d'être face à un type de formation sur mesure, vraiment qui tient compte de ce que les gens savent déjà faire. Ça leur est reconnu. Ils n'ont pas à refaire de cours là-dedans, mais où on bâtit pour eux des cours qu'ils ne devront pas nécessairement suivre en classe. Dans certains programmes, ça se fait en classe, mais dans plusieurs programmes, ça se fait en situation de travail. Ça se fait en auto-formation. Les gens font preuve de beaucoup d'originalité pour amener les gens à compléter leur diplôme. Donc, on est souvent, du moins en formation professionnelle, face à des gens qui ne sauraient pas retourner aux études, mais qui vont tenter l'expérience, sachant que des compétences vont leur être reconnues et qui pourront faire leur formation dans un cadre beaucoup plus adapté à leur situation familiale ou professionnelle.
Et Mme Mélil, on l'a évoqué très brièvement en début d'entrevue. On parlait un peu d'un certain mouvement international dans la reconnaissance des acquis, des compétences. Où vous diriez que le Québec se situe par rapport aux autres pays dans ce domaine?
Bonne question. Certainement pas dans les leaders, mais certainement pas à la fin non plus, dans les derniers. Le Québec a pris quand même des bonnes initiatives. Le Québec, il faut se le rappeler, est parmi les États très performants en éducation et formation des adultes. On peut interrompre un parcours de formation et revenir, se réorienter, retourner aux études au secondaire, au collégial, à l'université, beaucoup plus facilement au Québec que dans bien des pays du monde. Bon, la France est réputée pour être à l'opposé de ça, où c'est beaucoup plus difficile. Fait que ça va colorer l'ouverture face à la reconnaissance des acquis.
En terminant, quels seraient les prochains défis là, à réaliser pour le Québec dans les prochaines années?
Bien, moi, je m'intéresse beaucoup à l'accès à la formation. Et c'est sûr que je pense qu'on aurait vraiment avantage à regarder davantage pour les adultes les moins scolarisés, parce que les adultes les moins scolarisés sont ceux qui participent le moins à la formation structurée, que ce soit en entreprise ou que ce soit dans les établissements d'enseignement. Donc, il y a un défi particulier à reconnaître les acquis et compétences de ces gens-là. On a un grand défi au niveau de l'information sur la reconnaissance des acquis et des compétences. C'est complexe. Par le passé, il y a eu des ratés, je dirais, qui sont liés à un problème d'information. Là, on forme un peu plus nos professionnels de l'orientation professionnelle pour être mieux outillés, pour accompagner puis donner la bonne information aux gens. Donc, les gens ont des, il y a des ressources d'information, mais il reste un défi d'organisation. Il y a un défi aussi qui est lié au fait que la reconnaissance des acquis se fasse dans plusieurs types d'organismes assez différents. En 2013, personnellement, je ne viserais plus bâtir un système de reconnaissance des acquis et des compétences. Ça me paraît beaucoup trop complexe. Je ne pense pas que ce soit sur les structures qu'il faille mettre l'énergie en ce moment, mais bien sur l'instrumentation, sur la formation des personnels, mieux comprendre qu'est-ce qu'on est après faire et tout ça. Un autre défi, et ça, c'est partout dans le monde. On peut voir la reconnaissance des acquis comme quelque chose qui raccourcit la formation, qui permet plus de mobilité de la main-d'œuvre et tout ça. On peut la voir vraiment de façon comme instrumenter la reconnaissance des acquis, des compétences. Mais la reconnaissance des acquis peut vraiment soutenir l'apprentissage tout au long de la vie, donner confiance dans sa capacité d'apprendre, avoir le goût de développer des nouveaux projets, tout ça. Et je souhaiterais qu'on arrive à une vision plus émancipatrice de la reconnaissance des acquis.
Mais c'est ce qui met donc la table aujourd'hui pour cette thématique de la reconnaissance des acquis, des compétences. On va l'élaborer tout au long de l'émission. Rachel Billy, le professeur agrégé à la Faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke et membre du Centre d'études et de recherche sur les transitions et l'apprentissage, le CERTA. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
Merci, au revoir.
À 13h18, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Pour un Québec apprenant sur les ondes de CIBL. Et on en parlait il y a quelques minutes avec Mme Bélisle de l'Université de Sherbrooke. La notion de reconnaissance des acquis et des compétences s'applique dans le monde du travail et dans le monde de l'enseignement. Alors, dans ce segment, on va s'intéresser maintenant à ces grands mécanismes de reconnaissance développés dans le réseau collégial et les commissions scolaires de Montréal. Alors, pour en parler, j'accueille tout d'abord Mme Magali Robitaille, conseillère pédagogique dans le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences au Cégep Marie-Victorin. Madame Robitaille, bonjour.
Bonjour.
Et en compagnie de Madame Sylvie Prescott, qui est coordonnatrice du CERACIM, le service d'évaluation et de reconnaissance des acquis et des compétences de l'île de Montréal, qui regroupe 5 commissions scolaires. Madame Prescott, bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, je commencerai avec vous, Madame Prescott, si vous pouviez nous décrire brièvement le rôle du CERACIM.
Le CERACIM est issu du partenariat entre les 5 commissions scolaires de l'île de Montréal, la commission scolaire de Montréal, Pointe-de-l'Île, Marguerite-Bourgeois, Lester B. Pearson et English Montreal. Je les nomme pour bien situer le territoire là, de, visé par le CERACIM. Le CERACIM, c'est le centre régional qui sert de service d'accueil et référence pour la population en recherche des services disponibles dans ces 5 commissions scolaires en matière de reconnaissance des acquis. On vise vraiment les métiers qui sont en lien avec les programmes d'études de la formation professionnelle. Le CERACIM a comme mandat premier la promotion. Comme le soulignait dans la première partie de l'émission, Mme Bellil, il est important de promouvoir cette offre de service, bien la faire connaître et rejoindre les gens qui pourraient trouver beaucoup d'avantages à bénéficier de l'offre. Les activités de promotion, les activités d'information qui visent autant le public visé, là, la clientèle ciblée, qu'aussi tous les partenaires du marché du travail. La reconnaissance des acquis vise vraiment une reconnaissance officielle de la qualification et vise nécessairement l'accès à l'emploi. Ensuite, il y a pour arriver à rejoindre tous, il y a le besoin de développement de partenariats. Partenariat avec les organismes qui travaillent déjà auprès de la clientèle en recherche de qualifications, les organismes d'employabilité, les organismes d'aide aux personnes immigrantes, les centres locaux d'emploi, les différents ministères et bien sûr tout le secteur des entreprises.
Donc on pourrait dire
alors
que
on a des mandats larges.
C'est la porte d'entrée pour tous ces services. Et c'est un peu le trait d'union entre tous les organismes aussi et les commissions scolaires.
C'est ce qu'on souhaite que ça soit, ouais. Et c'est sur une bonne voie. Il y a, par contre, pour l'accès aux services de reconnaissance des acquis des compétences en formation professionnelle, les 5 commissions scolaires ne se limitent pas comme entrée unique au CERACIM. On privilégie l'ensemble des portes. Une personne intéressée pour ce service, si elle entre directement dans un centre de formation professionnelle, on aura le souci de regarder sa situation et de lui proposer un parcours de reconnaissance des acquis si elle a déjà un profil d'expérience significatif dans le domaine. On va tout de suite l'intégrer dans le processus ou le référer vers le CERACIM s'il s'agit d'un métier, d'un programme d'études qui n'est pas disponible dans ce milieu-là.
Et Mme Prescott, chez vous, au CERACIM, si on fait un petit peu le portrait le rapide de la clientèle, des gens qui font appel à vos services, ça serait quoi, après, la personne moyenne à peu près là, de qui font appel à vos services?
On peut aller se situer, en tout cas, la clientèle davantage dans la catégorie 30 ans et plus. Et on se limite pas, là. On a des gens dans la cinquantaine, début soixantaine aussi, mais obligatoirement, on rejoint davantage cette clientèle-là parce que nécessairement, il faut que les gens aient une expérience concrète, pratique de l'exercice du métier. Alors, un jeune adulte va trouver souvent avantage d'aller plutôt vers la formation initiale pour se qualifier. Bien sûr, plus de la moitié de la population rejointe, c'est les personnes immigrantes qui ont besoin de se qualifier avec une qualification reconnue au Québec, chez les employeurs québécois, puis qui ont un profil extrêmement intéressant au niveau professionnel.
Déjà qu'on a besoin beaucoup de main-d'œuvre qualifiée au Québec, donc c'est une belle façon pour eux de pouvoir travailler avec les études qu'ils apportent
Absolument.
De leur pays.
Fait que là, c'est un bon 60% là, de la clientèle.
Et je pense qu'on retrouve peut-être un portrait semblable chez vous au Cégep Marie-Victorin, Mme Robitaille. Oui. Quand même, ce sont des programmes pour la reconnaissance des acquis et compétences qui sont pour les adultes, des gens qui ont déjà de l'expérience de travail.
Tout à fait, oui. La moyenne d'âge, tout programme confondu chez nous, c'est 35 ans. Donc, ça rejoint vraiment ce que Mme Prescott disait. Pour la situation par rapport aux gens, à l'origine des gens, ça dépend des programmes. Donc, on va certifier les gens. Donc, les gens qui viennent faire la démarche de reconnaissance des acquis souhaitent obtenir un diplôme, soit un diplôme d'études collégiales ou une attestation d'études collégiales. Ça s'adresse à des gens qui ont de l'expérience dans le programme pour lequel ils font une démarche. Dépendamment du programme, par exemple, on a beaucoup de gens en éducation à l'enfance. C'est une technique qui est très populaire au niveau de la reconnaissance des acquis dans notre collège. Les personnes, ça, c'est à peu près 85% de personnes immigrantes et presque toutes des femmes aussi. Donc, on a un profil vraiment très très ciblé. Pour d'autres programmes comme éducation spécialisée, qui est aussi un programme fort chez nous, ça c'est plutôt 85% de gens d'origine québécoise. Donc, c'est pas tout à fait de la même proportion. Et là, on va avoir 70% de femmes. Mais c'est toujours à peu près le même âge. Ce sont vraiment des adultes qui ont acquis une expérience de vie et professionnelle intéressante au regard du programme.
Et Mme Robitaille, vous l'avez mentionné très brièvement, chaque démarche pour faire reconnaître ses acquis, ses compétences, est toujours associée à un programme de formation précis.
Tout à fait. Les gens souhaitent obtenir un diplôme ou quelques cours, un bulletin, mais l'idée est de s'inscrire dans un programme et d'avoir de l'expérience de travail dans ce programme-là. Donc, ça peut être soit un diplôme d'études collégiales, ce qui aussi permet aux gens de démontrer la formation générale, parce qu'on offre ce service-là aussi, ou une attestation d'études collégiales qui est là beaucoup plus, qui est de toute façon orientée vers les adultes.
Et si je vous pose la question à vous deux, qu'est-ce qui peut, que ce soit au niveau collégial ou à la formation professionnelle, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à vouloir faire reconnaître ses acquis et compétences?
Souvent, la première raison qui est invoquée, c'est l'accès à l'emploi. Des gens souhaitent obtenir certains postes et les exigences reliées aux postes les mènent vers un diplôme d'études professionnelles dans le cas du service qui est disponible dans les commissions scolaires. Les gens souhaitent travailler chez certains employeurs qui vont exiger un DEP, un diplôme d'études professionnelles dans le domaine ou une attestation de spécialisation professionnelle, ou encore pour conserver l'emploi qu'ils occupent, l'employeur pourrait exiger à un employé de démontrer d'avoir une qualification officielle pour une partie du programme d'études, une compétence bien spécifique en soudage ou une compétence bien spécifique dans un autre domaine. Et en allant vers la reconnaissance des acquis, ça nous permet d'associer ce candidat-là, cette personne-là, à un spécialiste du métier, un spécialiste du programme et qui va le placer dans une situation formelle en atelier où le candidat aura à démontrer son expertise et ça sera attesté ensuite par un relevé de notes.
Donc ça serait un peu comme l'employeur qui dirait à son employé, là, je veux vraiment que tu ailles faire reconnaître tes compétences, même si ça fait des années que la personne est à l'emploi.
Pour avoir l'accès à certains emplois, certains postes.
Donc des postes
supérieurs. Il y a des obligations d'avoir des qualifications officielles reconnues pour certaines compétences.
Ça peut être une réglementation gouvernementale qui entre en jeu. Par exemple, en éducation à l'enfance, la réglementation s'est modifiée. On demande maintenant dans les milieux de garde qu'il y ait 2 éducatrices qualifiées sur 3. Donc, ces femmes-là font le travail depuis 15, 20 ans sans avoir eu besoin du diplôme. Mais là, maintenant, l'employeur, pour assurer le quota, va leur demander d'aller faire la formation. Donc, ces femmes-là ont déjà développé les compétences. Donc, elles ont un travail. Donc, elles n'ont pas le temps de suivre les cours et elles n'ont pas l'intérêt puisqu'elles ont déjà développé les compétences. Alors, c'est vraiment un cursus qui est tout à fait approprié à leur situation.
Et comment ça se passe, justement, parce que là, vous venez de dire quelqu'un qui n'a pas le temps de faire un programme de formation parce qu'il travaille. Donc, comment on fait pour se faire reconnaître ses compétences et acquis?
L'offre est très, très diversifiée, très individualisée. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font le soir. Beaucoup de soit des présentations, soit des démonstrations aussi. L'observation se fait en milieu de travail. Mais toutes les choses qui se font au collège même peuvent se faire le soir, souvent à la fin de semaine. On en fait le dimanche. Donc, on se module en fonction des besoins de la clientèle qu'on a. Et là, ça dépend des programmes aussi.
Et en formation professionnelle, c'est vraiment un parcours individualisé qui tient compte des disponibilités autant du candidat, de la candidate, que des ressources professionnelles. Et ça va aller dans le même sens qui vient d'être démontré au niveau des collèges.
Donc, Mme Hélil aussi l'avait mentionné en début d'émission que c'est vraiment un service personnalisé, individualisé selon les besoins de formation ou de reconnaissance de chaque individu.
Oui.
Il y a un aspect qui est important dans l'intervention, entre autres, qu'on fait au niveau des commissions scolaires, c'est le développement de partenariats, et on va rejoindre une clientèle importante dans les entreprises en nous associant soit les services des ressources humaines, les syndicats, dans les milieux où, entre autres, il y a malheureusement des licenciements qui sont prévus, des fermetures, et il est important d'agir de façon rapide, préventive, offrir aux gens la possibilité de se qualifier pour être en mesure de faire face à...
Et de se replacer, de se retrouver un emploi.
Exactement.
Rapidement.
Et ça, c'est une association qui est importante au niveau des partenariats qu'on cherche à développer.
Et on va en reparler, on va parler du monde du travail dans quelques minutes. Sinon, en terminant, parce que le temps file, si les gens veulent faire appel à vos services, que ce soit au Séracim ou au Collège Marie-Victorin, est-ce qu'il y a des sites Internet, des plateformes que les gens peuvent visiter?
Au Séracim, par le site Internet www.seracim, seracim.ca. Vous avez toute l'information. On a un guichet téléphonique, 5 jours semaine, des séances d'information gratuites toutes les semaines pour informer et remettre toute la documentation nécessaire pour préparer son dossier de candidature, et c'est tout à fait gratuit.
Donc, seracim.ca, et sinon au Collège Marie-Victorin.
Dans le cas du Collège Marie-Victorin, c'est le RAC pour RAC, .collegemv comme Marie-Victorin, .qc.ca. Donc, c'est le site pour la reconnaissance d'acquis. Toutes les informations sont là. Et une autre porte d'entrée pour les collèges à Montréal, c'est Compétences Montréal.
Donc, et on aura le directeur général à la fin de l'émission. On pourra en reparler avec lui. Donc, c'est rac.collegemv.qc.ca pour la reconnaissance d'acquis compétences au Collège Marie-Victorin. Et si les gens peuvent être aussi réorientés ailleurs selon leurs besoins. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle, on avait autour de la table Magali Robitaille, conseillère pédagogique dans le secteur reconnaissance des acquis et des compétences au Cégep Marie-Victorin, et Sylvie Prescott, coordonnatrice du Séracim, le service d'évaluation et de reconnaissance des acquis et des compétences de l'Île de Montréal. Merci beaucoup à vous deux.
Merci.
Merci.